Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans un instant, et comme chaque troisième tumulte de chaque mois, Sylvie Neve nous présentera son poème provisoire. Puis dans 30 minutes, nous recevrons Ismaël et Oussama, tous les deux étudiants libyens à Arras. Ils nous parleront de l'association qu'ils viennent de créer, Assoliba, Association des Libyens d'Arras. Et puis en fin d'émission, nous ferons le point sur la situation en Tunisie avec Hélène Flaude, députée européenne. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1096. Jean au micro, salut. Le poème provisoire de Sylvie Neve.
Bonjour tumulte, bonjour l'année. Certains ont commencé 2012 en pétrissant la terre et la paille dans la vallée du Jourdain. La lecture d'aujourd'hui est pour eux. Un abécédaire en cours qu'on pourra parcourir de abricot à azur, un abécédaire de mots de la langue française dont l'origine est arabe. Aujourd'hui, de abricot à alezan. Voyageurs les mots, charriés par les sources, les vents, les poissons ou le bec des alcyons. Ont d'abord remonté le courant des ouèdes, puis ceux de la Méditerranée avant de devenir morceaux de langue française. Il en est ainsi d'abricot, qui vient de l'arabe, et de tous ceux qui vont suivre. Quand je croirais avoir cueilli l'abricot. Dans la vallée du Jourdain, jeunes, Européens et Palestiniens pétrissent l'adobe, une brique rudimentaire, faite d'argile ou de terre glaise et de paille, hachée, séchée au soleil. Quand tu croiras avoir cueilli l'abricot, si précieux objet qui coiffe une cornue servant à la distillation pour obtenir l'alcool, qui comme l'alambic a ses origines dans les papilles arabes. Quand il croira avoir cueilli l'abricot. Ô oiseaux, chers à Baudelaire, trop géants, albatros, pleurez. Quand elle croira avoir cueilli l'abricot. Je n'en mangerai pas moins l'alberge, puisque il y avait à Paris peu de jardins où n'on trouva des arbres, dit Gilles Ménage au XVIIe siècle. Quand nous croirons avoir cueilli l'abricot, celui-ci évoque l'élan, le transport amoureux, tendresse, caresse, blottie dans les bras de l'autre, goûter, goûter, que dis-je, genießen, délicieux mot allemand pour savourer et plus, l'alcalin, qui signifie tout autre chose. Quand vous croirez avoir cueilli l'abricot, par les morts, palais mauresque, l'alcazar, Cordoue, Séville, Tolède, et puis un jour, Cafcons à Paris, ou cabarets en nombre à Berlin. Au point qu'en 1936, le chef de la police politique du Reich promulgua une ordonnance interdisant tout abus de. Cette désignation, Alcazar, susceptible, de soulever l'indignation légitime du peuple allemand. Quand ils croiront avoir cueilli l'abricot. Il y a l'alchimie du verbe et celle du désir. Une manière de regard, un grain de beauté, un cheveu sur la langue, une intonation, un rien qui nous tient. Hallucination ? Voyez-vous très franchement une mosquée à la place d'une usine, monsieur Rimbaud ? Quand même, je croirais avoir cueilli l'abricot. Alcool et cool, l'un surgirait de l'autre, poudre très fine et eau de vie. Par quelle alchimie ? Quand même, tu croirais avoir cueilli l'abricot. Pièce intime, sofa, drapé de soie, l'alcôve discrète. Derrière les drapés, le corps des amants, abri des regards, à discrétion, chair secrète, sécrétion d'alcôve. Quand même, elle croirait avoir cueilli l'abricot. 12 alciens, oiseaux mythiques, grecs et andalous, al-andalous, vol muet au-dessus de la Méditerranée, en quête de paix. Printemps, révolution, arabe, pleurera l'oiseau mythique, ou bien enfin entendre son chant. Quand même, il croirait avoir cueilli l'abricot. Étoile la plus brillante du taureau, si brillante, Aldébaran, que Victor Hugo s'enflamme à la décliner. Astre, quand l'univers naquit, fauve et sacré, tu ne fus pas le jet le moins démesuré de ces convulsions terribles et de l'onde du chaos frémissant de devenir le monde. Tu fais partie, ainsi que l'hydre et l'alcyon, du rythme fabuleux de l'Orient. Aldébaran, clarté de l'insondable grève, tu n'es pas seulement dans les gouffres vermeils un de ces inconnus que nous nommons soleil. Tu n'as pas seulement, comme le kéroubim, une face splendide et sombre sur l'abîme. Ta merveille, c'est d'être une roue inouïe de lumière à jamais dans l'ombre épanouie. Quand même, nous croirions avoir cueilli l'abricot. Dans les jardins d'Ispahan, c'est là que j'imagine s'ébattre le bel animal que la couleur de sa robe nomme Alezan.
Nehledej za mě, nevím kam, kam se schovávám, nevím kam. Ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ani bílá, ani černý, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani má.
Algarade, algèbre et bien d'autres. Prochain troisième mardi de février. À bientôt.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neff, chaque troisième tumulte de chaque mois. Nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba.
tam a já dávno zpět, potom ani hned nečeká, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned nečeká, dávno jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sama, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans une quinzaine de minutes, nous recevrons Oussama et Ismaël, deux étudiants libyens à Arras. Ils nous parleront de leur association Assoliba qui vient de se créer, Association des Libyens d'Arras. Le groupe Other Lives, extrait de l'album Tamer Animals. Dark Horse. Other Lives avec un deuxième titre extrait du même album, As I Lay My Head Down. Other Lives, suivi de Violent Femme, extrait d'un album de 1982,
Kiss Off. Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time. They do it all the time.
They do it all the time.
They do it all the time.
They do it all the time.
Do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm in the press? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
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 Time, 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 time.
Puerta del río se sienta y llora, a la puerta del río se sienta y llora, tiene el marido viejo la picarona, tiene el marido viejo la picarona. Y a la puerta del río está una lagua, a la puerta del río está una lagua, peinando sus cabellos, cogiendo el ámbar, peinando sus cabellos, cogiendo el ámbar. Pario me Roma, y anoche y antinoche, pario me Roma, 25 ratones y una paloma. Thank you. maridos, tu marido y el mío. Son dos maridos, cuando van por la calle, son dos perdidos. Cuando van por la calle, son dos perdidos. Del monte vive mi suegra, por no cortar zapatos no voy a verla.
La marraine Fortuna, c'était Oren Bledo et Jennifer Charles. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Comme annoncé, nous recevons Ismaël, Mohamed et Oussama, tous les trois étudiants libyens à Arras. Nous allons parler avec eux de l'association qu'ils viennent de créer, Asso Liba, association pardon, des Libyens d'Arras. En fin d'émission, nous ferons le point sur la situation en Tunisie avec Hélène Flautre. Oussama, Mohamed et Ismaël, bonjour.
Bonjour Jean.
Bonjour Jean.
Alors, avec nous aussi Claude, qui est celui qui a permis la rencontre entre vous trois et puis PFM. Rencontrer des Libyens, c'est plutôt rare, et en plus à Arras, c'est certainement encore plus rare. Nous sommes donc très heureux de vous recevoir à Radio PFM. Nous allons bien sûr parler de votre association Asso Liba, mais dans un premier temps, pour commencer, on va faire connaissance, puis dans un second temps, on parlera de la Libye. Vous pourrez témoigner de ce qu'est ce pays, de ce qui s'y passe actuellement. Et puis enfin, évidemment, dans la dernière partie, nous aborderons les buts et pourquoi vous avez créé cette association Asso Liba. Donc pour commencer, on va faire connaissance. Peut-être, première question, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé à Arras, en France d'abord, et puis à Arras. On va commencer peut-être par Oussama.
Bonjour.
Oui, Oussama.
C'est Oussama Elmgouz. Donc, je suis libyen et je suis toujours en France. Donc, je vais tout d'abord vous parler comment je suis venu en France. J'ai eu une candidature pour faire suivre mes études ici en France, mes études supérieures. Bon, quand je suis arrivé, je suis arrivé directement à Tours, la région centre. C'est pour apprendre la langue française dans un établissement français en général. Donc j'ai fait un cours de langue dans l'Institut de Touraine qui se trouve à Tours.
C'était il y a combien de temps là, que tu es arrivé à Tours?
Je suis arrivé il y a maintenant 12 ans à peu près.
Alors passage de Tours à Arras, comment ça s'est fait?
En fait, j'ai appris la langue française à Tours et après j'ai postulé mes dossiers pour avoir une inscription dans une université française et j'ai eu une acceptation dans l'université d'Artois, l'université d'Arras. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. En fait, j'ai pas mis des préférences entre les régions françaises, c'est parce que voilà, toutes les régions sont bien et ça m'intéresse beaucoup. Le fait que je sois en France n'importe où, ce n'est pas bien précisément à Arras, précisément, mais n'importe où en France. Donc l'essentiel, c'est de faire suivre ses études en France et voilà.
D'accord. Alors Ismaël, est-ce que c'est le même parcours?
Tout d'abord, bonjour Jean et tous les Rigeoises et les Rigeois. Et surtout mon ami Claude, merci beaucoup. Vraiment, j'ai fait la même situation d'Oussama. Je m'appelle Ismail Sakal, je suis étudiant libyen à l'université d'Artois. J'avais la même situation d'Oussama.
Vous êtes arrivé en France à la même époque ?
Avant d'Oussama, presque 5 mois.
Oui, il est arrivé avant moi, 5 mois d'avance.
Oui. D'accord. Et j'étais dans la même situation, j'ai descendu à Tours, toujours.
Vous posez la question peut-être de le fait de la majorité des Libyens sont à Tours. C'est parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, ou si j'ai bien sage, il y a un accord entre le gouvernement libyen et des établissements qui donnent des cours de langue française.
D'accord.
Tels que l'Institut de Touraine l'Institut de Touraine et le CELA de Besançon et le CAVILAM de Vichy et l'Université Stendhal de Grenoble, si je me trompe pas. Normalement, d'accord, la majorité des Libyens, toujours, quand ils arrivent en France la première fois, ils sont toujours dans ces régions en général.
D'accord, merci pour de ces précisions. Oui. Ismaël
Pour profiter de cette émission, je passe un demande à les Rigeois et les Rigeoises. J'espère que l'Université d'Artois a créé un centre de langue pour l'étranger. Comme ça, on peut cuire beaucoup des étudiants libyens à le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Parce que c'est un fil pour les étudiants calmes et très gentils.
D'accord. Alors Mohamed, est-ce que pour vous aussi c'est le même parcours, Libye, études à Tours et puis finalement candidature et puis...
Oui, c'est presque la même chose, mais moi j'ai suivi les cours intensifs à Vichy, au centre de langue CAVILAM. Mm-hmm. Et enfin j'ai été accepté ici à l'Université d'Artois pour faire mon master 2 en FLE.
En quel
français langue étrangère.
D'accord. Alors, est-ce que tous les trois, vous vous connaissiez en Libye ou est-ce que vous êtes connus en France ? Est-ce
que tous les trois
On s'est connus ici.
Oussama.
On s'est connus ici en France et pourtant, Ismaël et moi, on habite juste à côté. On est voisins. J'habite juste à 40 km de là où il habite, lui. Mais j'habite un peu loin de Mohamed.
D'accord.
Et on s'est rencontrés ici à Arras. Pour Mohamed, je l'ai rencontré à Arras ici il y a cette année.
Oh oui, cette année.
Et pour Ismaël, je l'ai connu quand je suis arrivé à Tours, dès les premiers jours en général.
Vous êtes reconnu.
Oui.
Alors, justement, de quelle région vous êtes originaire en Libye ? Est-ce que vous pouvez décrire chacun un peu la ville, le village, la région de laquelle vous êtes issu en Libye ? On commence par Oussama.
Bon, moi j'habite à Sabrata, le nord de Tripoli, en fait à 80 km de la capitale libyenne, Tripoli. J'habite dans une ville historique, il est connu par les ruines romaines qui se trouvent au bord de la mer, tout à fait en fait. Mmh. Et voilà, c'est une petite ville touristique et agréable.
Ouais. Proche de la frontière tunisienne.
C'est environ 120 km de la frontière tunisienne, en fait. Mais d'accord. Si on va par rapport à la capitale tunisienne, c'est environ de 700 ou 600 km.
D'accord. C'est une ville importante de combien d'habitants ?
C'est une ville touristique, mais je ne peux pas vous donner un chiffre précis pour les habitants. C'est parce qu'en fait, je ne le connais pas.
D'accord. Alors, Ismaël.
Moi, j'habite presque un fil stratégique en Libye pour les Tripoli, c'est pas Zawiya, 45 km de Tripoli, c'est entre le Tunisie et Tripoli, donc c'est un fil stratégique pour la Libye presque. Si je me trompe pas, c'est la quatrième fil en Libye.
D'accord.
Oui.
Et vous avez passé chacun le temps de vos études, enfin votre enfance et puis les études dans ces deux villes. Oui. Oussama,
je suis né à Sabrata et je suis grandi et j'ai fait mes études à Sabrata toujours. Et enfin, je suis venu en France. Donc, je ne suis pas sorti de Sabrata.
C'est pareil, Ismaël.
Oui, je suis né en Zawiya. J'ai fait toutes mes études à Zawiya.
D'accord. Alors, Mohamed, vous venez de où?
moi j'habite un peu loin de chez Osama et Smaïl. J'habite au sud de la Triboulie, à peu près de 150 km. C'est une ville montagneuse. Elle se situe à la montagne de la Fossage. Si vous connaissez à partir des événements qui sont passés là-bas pendant la guerre.
D'accord.
Oui, et moi aussi j'ai fait mes études dans ma ville.
Ça s'appelle comment ta ville ?
Elle s'appelle Al-Qal'a.
D'accord. Oui. Et dans chacune des villes d'où vous venez, il y avait une université, lycée, école, lycée, et université.
Oui. Oui. Normalement, dans chaque ville libyenne, il y a des écoles. Ce n'est pas qu'une seule école, il y a des écoles. Mais pour l'université, on trouve par exemple une université et après on trouve des branches dans les villes.
D'accord. Est-ce qu'il y a en Libye le même phénomène qu'on a pu décrire qu'en Tunisie, c'est-à-dire une jeunesse très scolarisée, avec des niveaux d'études importants ? Est-ce que c'est aussi la même situation ? Est-ce que tout le monde va à l'école ?
Oui, tout le monde va à l'école. Personne ne reste chez lui. Donc les études et le fait d'aller à l'école, c'est obligatoire. Personne ne fait pas ses études, en fait.
D'accord. À partir de 6 ans.
À partir de l'âge
de 6 ans, c'est obligatoire pour tout le monde.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on n'a pas des alphabètes.
D'analphabète. Il n'y a pas d'illettrisme.
sauf les premières générations. Mais pour la nouvelle génération, il n'y en a plus.
D'accord, donc tout le monde lit, écrit.
Écrit.
D'accord. Est-ce que la pratique, puisque vous êtes étudiant en français, est-ce que l'étude du français est quelque chose de courant en Libye ?
Vraiment non, parce que c'est.
Ismaël.
Oui. L'histoire de la langue, toute la langue en Libye, c'est à passer une période compliquée. On a besoin de parler de ça un petit peu parce que. Avant tout le monde étudiait le français pendant le lycée, le premier, le deuxième, le troisième lycée. On étudiait l'anglais, le français, l'italien.
Ah oui, mais l'italien, les années, forte présence de l'Italie.
Oui. Il cause la guerre contre les États-Unis, les 86. Il y en a un ministère qui a arrêté toutes la langue étrangère en Libye, cause il a dit on est contre l'Occident, donc on peut arrêter toutes ces études, toutes ces langues, on n'étudiait que l'arabe. C'est dommage. Mais à partir le 2001-2002, on a commencé à intégrer la langue étrangère à l'université à partir de 2004 auprès. Précisément, peut-être, on a intégré la langue française et l'essai aussi.
D'accord. Quand vous dites on étudiait que l'arabe, c'est l'arabe classique.
Oui,
qui n'est pas littéraire, oui, qui n'est pas pratiqué, qui n'est pas utilisé par les Libyens. C'est un dialecte.
Mais on l'utilise, comment dire, quand on parle dehors de l'école, en dehors de l'université, on parle l'arabe dialectal. Mais pour un professeur ou bien pour quelqu'un qui va parler à son professeur, normalement, on va essayer toujours d'utiliser le style,
d'accord.
Le style standard, en fait. Je vais pas vous dire le style soutenu, mais le style standard, normal.
D'accord. Alors, pour vous, oui.
Et la deuxième langue en Libye, c'est la langue anglaise, en fait. Mm-hmm. Il y a une minorité qui savent parler la langue française, sauf les gens qui ont déjà étudié la langue française quand ils étaient petits, ou bien des gens qui travaillent dans des entreprises françaises dernièrement. C'est parce qu'en fait, il y a dernièrement des entreprises françaises qui sont installées en Libye.
On n'oubliait pas quelque chose pour le sud de la Libye. Il était colonisé avant avec les Tunisiens par rapport à... c'est la France. Donc, il y en a certaines personnes qui parlent le français, c'est très ancienne. Mmh. Donc, cette génération, le 45,
ouais,
le
2,
oui, à peu près comme ça, il y en a des certains. Mais par rapport à ça, non.
Dernièrement, donc, on a fait, comme on dit, en quelque sorte, étudier la langue française, même pour les lycéens. Les gens qui sont au lycée, ils vont étudier la langue française pour le lycée, à partir du lycée. Mais pour la langue anglaise, on l'a appris des maternelles, en fait.
Ouais. Alors, est-ce que, bon, on a beaucoup parlé du rôle d'Internet, de l'informatique dans les révolutions arabes. Est-ce que, pour vous, l'informatique, la pratique d'aller sur Internet, etc., est-ce que c'était très répandu en Libye?
Si on va faire une comparaison par rapport à la Libye et la France, le rôle d'Internet n'a pas joué un rôle très important. Pour les révolutions en Libye. C'est parce qu'en fait, il y en a des...
Le contrôle.
Il y a le contrôle, tout d'abord, pour accéder le YouTube. Donc, il faut, si je ne me trompe pas, dernièrement, il faut composer un numéro. Et une fois, vous allez composer ce numéro-là, vous êtes surveillé.
Oui, d'accord. Alors... est-ce que vous êtes venu en France, vous faites des études en France. Est-ce que c'est simple pour un étudiant libyen d'aller faire des études à l'étranger? Pour vous, est-ce que ça a été compliqué? Et pour d'autres, est-ce que c'était et est-ce que ça devient plus facile ou est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'est une infime minorité qui peut avoir ce...
Je vais vous répondre à
mes questions. Ça après, on va faire parler.
Je vais laisser la parole aux autres. En fait, le fait de venir à l'étranger suivre ses études, c'est un peu dur. C'est parce que le coût de la vie est élevé ici, en Europe en général, et pour un Libyen, pour qu'il vienne à l'étranger avec son argent, c'est quasiment impossible. Je vais pas vous dire entièrement impossible, mais c'est rare quand on trouve un Libyen qui vient en France ou bien aux États-Unis ou là n'importe où dans le monde avec ses propres argent. C'est parce qu'avoir une fortune.
D'accord. Alors pour vous, par exemple, Mohamed, est-ce que vous avez pu bénéficier de bourses? Est-ce que l'État a soutenu votre départ vers l'étranger pour les études?
Oui, oui, vraiment. On est ici parce qu'on touche à une bourse et avec laquelle on a pu suivre nos études ici en France, en fait. Mais le fait de choisir la France pour les Libyens, si la plupart évitent d'aller en France sous prétexte que la langue française est un peu difficile. Sauf nous, parce qu'on a déjà étudié la langue française à l'université, ça nous a beaucoup aidé. Et pour les autres, je trouve qu'ils ont évité la langue française parce qu'ils disent que la langue française est un peu difficile et préfère l'anglais. Et c'est pour ça qu'on trouve la majorité des étudiants préfèrent aller en Grande-Bretagne, par exemple, si on prend en considération qu'il y a presque 4000 étudiants en Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne, oui.
Alors, vous avez passé votre enfance, puis vos études, lycée, une partie de l'université en Libye. Vous êtes arrivé en France, il y a peu de temps, il y a eu la révolution libyenne. Donc, vous avez passé un certain temps quand même en Libye, sous Kadhafi. Et je voudrais vous demander un peu comment c'était l'école sous Kadhafi. Est-ce que c'était quelque chose qui était particulièrement encadré? Est-ce qu'il y avait un catéchisme, un encadrement?
Vraiment,
comment ça se passait?
Oui, vraiment, les périodes sous Kadhafi, on a passé vraiment difficile période. Par exemple, on a obligé d'étudier son livre. C'est le livre Ferte. Il y a des choses très, très bizarres dans ce livre.
Le petit livre vert de
oui.
Kadhafi. Hein,
qu'est-ce que,
on va dire petit livre
exemple,
vert parce que ça,
oui,
ça évoque que, le petit livre
dans,
rouge.
Dans ce livre, il parlait beaucoup de choses pas bizarres. Une autre chose, on a passé. On ne peut parler pas de le Kadhafi. Toujours, on dit c'est les pommes, personne, tout. On n'a jamais parlé de lui. Si tu parles de lui, tu es mort tout de suite.
D'accord. On ne pouvait pas prononcer son nom même.
Non.
C'était dangereux
en fait,
de...
En fait, non.
Oussama.
Comment dire, l'école, comment s'est passé-t-il en Libye? Ça s'est passé normalement, sauf qu'on va étudier toujours le livre vert de Gaddafi et bien ses idées, l'idée de Gaddafi.
Les idées.
Les idées de Gaddafi, en fait.
Voilà.
Et à
C'est-à-dire, il y
part
avait un
ça,
enseignement spécial sur le livre vert de Gaddafi?
Spécial pour les avancées, pour celui qui va suivre ses études, pour la réflexion de Gaddafi et le livre vert. Donc, il a le droit. Mais à l'école, quand on va l'étudier à côté les autres méthodes, en fait. C'est obligatoire.
C'est obligatoire.
On est obligé de le lire. Ce n'est pas vraiment le livre vert, mais ce sont des passages du livre vert.
D'accord.
Je ne vais pas vous dire qu'on tient le livre vert, on va le lire et on va l'apprendre par cœur. Ah. Mais on prend toujours les passages et on trouve, comme on dit, sur les murs des écoles. Et
on passe l'examen aussi.
Toujours il y a les, comme on dit, les phrases que Gaddafi a écrites.
Citation.
Oui.
Et par contre, la question de politique au moment de Gaddafi, c'était comme tabou en fait. On ne parle pas toujours de la politique et on l'évite. Mais dernièrement, si je ne me trompe pas, dernièrement, on parlait normalement. Ce n'est pas on parlait normalement, mais il y a, comme on dit, il y a une sorte d'ouverture vers la politique.
D'accord.
Et on parle et ça ne nous empêche pas. Mais avant, il était vraiment tabou. Et si quelqu'un qui parle de la politique, franchement, je ne vais pas vous dire ce que ça va passer, c'est parce que c'est terrible ce que ça va passer.
Mmh. Ouais. Mais comment vous viviez ça, vous, concrètement là,
Normalement, depuis qu'on était petit, on était comme ça, on est éduqué comme ça, ça ne nous gêne pas. Ça, personnellement, je parle à moi-même, ça ne m'a pas posé un problème. C'est parce que c'est une question d'habitude. J'ai pris l'habitude de ne pas parler à cela. Et ça me gêne pas. C'était normal, en fait. Je ne vais pas vous dire que j'étais coincé, j'étais inquiet, j'ai peur tout le temps. C'est vrai que je n'évoque pas ces sujets-là. Et même si je trouve quelqu'un qui parle, en général, sur la question de la politique, j'essaie toujours de l'éviter et de ne pas revenir là-dessus.
D'accord. Oui. Donc, il y avait une forme d'habitude, d'autocensure.
Oui,
c'était vécu comme quasiment normal.
On fait attention Ismaël. Toujours. On fait attention toujours parce que si tu parles de ça, c'est très dangereux. Pour moi, personnellement, quand j'étais petite, le 9 ans, disons, le 82, 93, il y en a des... catastrophe. Il y en a des groupes du Gaddafi qui a tué les étudiants dans l'université.
Sous prétexte qu'ils sont traîtres, qu'ils ont trahi la politique,
oui.
Qu'ils critiquent la politique libyenne.
Oui.
Ça, c'était
la politique
en quelle année
le 82, 83, 84, c'est le plus part dans l'université. Dans l'université, si terrible. Quand tu vois les choses comme ça, j'étais petite, toujours dans ma tête. On a vu les gens qui... comment ça s'appelle oui.
Ils sont pendus.
Oui. Donc, on n'oublie jamais ça.
Mm-hmm.
Donc, toujours, on parle bas des les politiques de Gaddafi. Jusqu'à maintenant, ça va. Après les révolutions, on est libre, on parle.
Ouais, voilà.
J'espère.
Ouais, d'accord. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Je rappelle que nous sommes en compagnie de trois étudiants libyens à Arras. Oussama, Ismaël et Mohamed, et puis ils sont accompagnés de Claude hein, qui nous a mis en relation. On va parler de la situation en Libye avec la révolution et puis évidemment de votre association ensuite. Donc une petite pause musicale, et la musique c'est vous qui l'avez amenée. Alors qu'est-ce qui présente ce qu'on va écouter?
Voilà, Oussama. Ce sont des chansons pour la révolution libyenne ou bien une chanson de pays, une chanson de nostalgie en général.
D'accord, on l'écoute et puis on en parle après.
Ah, ok, merci.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Nous sommes en compagnie de Oussama, Ismaël et Mohamed, tous les trois étudiants libyens à Arras. Ils sont venus nous parler de l'association Assoliba, mais bien sûr, auparavant, on parle évidemment de la situation en Libye. Claude les accompagne et c'est lui qui nous a mis en relation. Alors peut-être un petit mot sur ce qu'on vient d'écouter. Une chanson de la Révolution.
C'est une chanson de la Révolution libyenne. Donc il est publié en fait pendant la Révolution, si je ne me trompe pas, un mois ou deux mois après la Révolution libyenne. Donc l'âge de cette chanson, environ 8 ou 6 mois.
D'accord. Alors, on a déjà évoqué la situation en Libye sous Kadhafi. Vous avez donné quelques témoignages. Pour vous, quelles ont été les raisons principales, les questions forces qui ont fait que le peuple libyen s'est révolté contre Kadhafi, ou tout du moins une partie du peuple libyen, parce que Kadhafi avait aussi des soutiens dans la population.
Le soutien de Kadhafi est devenu en retard, tardivement. Mais la révolte, donc on s'est révolté, il y a plein de raisons, donc je ne peux pas vous dire tout, mais je vais vous donner bien précisément donc la manque de la liberté, de la liberté d'expression, ce qui est, je le classe dernièrement, mais le plus important c'est les gens des Benghazi et le fait de mordre de la prison Abu Slim. Voilà, quand il a tué 1200 prisonniers d'un seul coup. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont, comment on dit, ils sont prisonniers sans juge.
Sans jugement.
Il n'y a même pas une raison valable pour qu'elle soit en prison. Donc, ils ont réclamé et des coups, ils les ont tués. 1200, c'était
96.
96. Et voilà, les habitants de Benghazi, ou bien le sud de la Libye, elles se révoltent à chaque fois concernant tout cela. Ils réclament pourquoi ils voulaient récupérer les corps de nos enfants en général. Et voilà, il y a mille raisons en fait. Je ne peux pas vous dire. C'est pour ça qu'on s'est révolté.
Ce que vous avez cité déjà, non, c'est l'absence de liberté, la question de la démocratie, et puis bon, là, la répression féroce. La répression, oui. Est-ce que, par exemple, on peut dire que le peuple libyen avait faim?
Non, pas du tout.
C'est pas une question de partage des terres, c'est pas une question d'emploi, chômage.
C'est vrai, chômage, il y a chômage un peu, et même le salaire, il est pas élevé en fait. On n'arrive pas, à vivre avec cet argent. On arrive à vivre vraiment, mais on n'arrive pas à faire, les autres choses. C'est-à-dire, on ne peut pas faire construire une maison avec ces argents, on ne peut pas acheter une voiture. C'est justement pour survivre.
D'accord. Alors, le régime Kadhafi a tenu quand même 42 ans, je ne me trompe pas.
Oui, 42 ans.
C'est une dictature, la dictature.
Alors,
tient beaucoup.
Oui, bien sûr, c'est une dictature, mais est-ce que ce régime-là pouvait tenir simplement par la répression? Est-ce qu'il y avait des gens qui soutenaient Kadhafi, qui avaient intérêt à garder Kadhafi?
Ce sont les pro-Kadhafi, ce sont les peuples de, comment on dit, les Libyens de son tribu. Et les tribus qui les a aidés, en fait, sont les pro-Gaddafi, en général. Donc, c'est
une minorité?
C'est pas une minorité, je ne veux pas dire... Une minorité par rapport à la majorité qui se révolte contre lui. Hein.
Oui,
c'est
ça.
Si on va faire une comparaison. Mais les gens qui soutenaient Gaddafi, on va voir, sont les pro-Gaddafi qui travaillent avec lui.
Oui.
Même si Gaddafi va tomber, eux aussi, ils vont tomber avec lui. C'est pour ça, il n'y a pas d'autre choix, en fait.
Les gens qui profitent l'argent à part de Gaddafi, c'est ça. Sa famille aussi, sa tribu, c'est tous les gens qui imaginent quand les Gaddafi ils tombent avec lui. Les gens qui profitent tout l'argent, que ça. Après les révélations, il y en a 10 gens qui viennent avec lui et causent. Par rapport aux causes que les gens disent, pourquoi l'Occident entre en Libye, attaque la Libye, ils ne comprennent pas bien.
Donc, il y a des gens qui viennent avec lui. Mais pas beaucoup. Par rapport aux autres, vraiment, ce n'est pas beaucoup.
Alors, il y a eu donc révolte armée aussi de la population contre Kadhafi. Mais est-ce que cette révolte aurait pu aboutir sans l'aide
vraiment,
militaire occidentale?
Mais vraiment, les révolutions, ce n'est pas révolution militaire. Elle était révolution libre, son armée. Mais on a obligé à porter l'arme contre lui parce qu'il a forcé les gens dans la rue. Il a tiré les gens par
Normalement, les gens...
Directement.
Quand ils sont révoltés à Benghazi, il a tiré dessus directement. Donc, il n'a pas demandé qu'est-ce qu'ils vont, mais il a commencé à tuer.
Les trois premiers jours dans la révolution en Libye, imagine 400 morts. Les trois premiers jours au Benghazi. À cause de ça, donc, les fils, le sud, le nord, l'ouest et l'est, il y en a des fils qui bougent parce qu'il y en a des gens qui connectaient les autres. Il y en a des choses qui passaient ici au Benghazi, terribles. Les militaires et les gens de Gaddafi qui tirent le monde de la rue, c'est impossible ça. Et encore, on a stressé, ça fait longtemps, on a stressé, mais quelqu'un qui parle de lui. Mais c'est l'occasion pour sortir dans la rue. On préfère mort qu'on reste celui.
D'accord.
C'est ça.
Alors est-ce que évidemment, cette révolution, elle n'aurait pas abouti s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire occidentale.
Oui.
On a du mal à imaginer comment ça aurait été possible.
Si
nous qui on a demandé l'aide par l'Occident, parce que le Gaddafi, il a une grande armée, et surtout les mercenaires. Mercenaires, 1000 mercenaires en Libye.
D'accord. Qui venait de quel pays?
Soudan, Tchad, Niger, Mali. Moi, personnellement, j'ai vu les quatre nationalités là-bas. Un jour, j'étais là-bas, j'ai fait plusieurs combats. Donc, un jour, on a arrêté plusieurs personnes, presque 25 personnes, totalement Niger. Moi, j'ai noté Niger, Tchad, Soudan, Mali.
C'est parce qu'en fait, Ismaïl était au front de combat pendant la guerre. Bon, il a participé dans la guerre de Libye. C'est un témoignage, il était sur le terrain pour nous apporter cette réalité en fait.
D'accord, Ismaïl d'ailleurs nous a montré sa photo en combattant.
avec la tenue de combat.
Et malheureusement j'ai un ami qui est rentré avec moi, il est mort à côté de sa famille où elle habite. Il a un an, il n'a pas vu sa famille.
Il était ici, non?
Oui, il est étudiant ici en France, à Tours.
D'accord. Alors, l'intervention occidentale militaire, bien sûr, sur le terrain, elle a permis que Kadhafi soit éliminé. Maintenant, les gens disent, si ces pays, par exemple la France ou l'Angleterre, sont intervenus comme ça, en Libye, c'est pas simplement pour aider les Libyens ou pour liquider Kadhafi qu'ils avaient d'ailleurs par ailleurs avant accueilli très chaleureusement. Donc est-ce que vous avez perçu cette intervention occidentale aussi comme étant très intéressée?
Bon, ça c'est clair. Oussama. En fait, l'intervention aérienne en Libye, il est venu pas comme ça pour ce prétexte la liberté ou bien la démocratie. C'est parce qu'on n'attend pas un grand-chose pour débayer comme les Amériques ou bien les Europes sur le blanc de la démocratie. Donc, il vient toujours pour la liberté et pour la démocratie, mais il cache quelque chose derrière, en fait. il faut toujours, quand on va faire une lecture politique, il faut toujours faire en parallèle une lecture géostratégique et une lecture, comme on dit, économique. S'ils vont vous dire qu'on est venu seulement pour vous aider ou bien pour votre liberté, pour la démocratie, qu'est-ce qu'on attend de ces pays, les Américains, bien les Européens en général? Ils soutiennent pendant 30 ans la dictature et une fois, ils viennent contre la dictature. C'est-à-dire qu'ils vous cachent quelque chose. Donc il faut toujours faire les doubles lectures, ce qui est absolument nécessaire et important. Sinon, il faut pas qu'on soit naïf, en fait. Il faut la naïveté, on se gêne là, donc il faut l'enlever.
D'accord. C'est vrai. Alors, bon,
moi, je suis... Non, je dis pas que je suis optimiste de ce qui se passe, je suis optimiste prudent.
D'accord.
Voilà.
Alors, la Libye, c'est un pays riche, finalement. Oui. C'est un pays qui a du pétrole, qui a d'autres...
Voilà, tout. Très, très, très riche.
Très, très riche.
Les sources naturelles en Libye sont beaucoup, en fait, surtout le pétrole. Et voilà, c'est...
Est-ce qu'il y a d'autres aspects, par exemple, de la vie économique en Libye qui pourraient être développés, qui pourraient se révéler des richesses qui n'étaient pas utilisées? Par exemple, vous avez parlé de votre ville de naissance,
où il y a des ruines. Oui.
Voilà, le tourisme, par exemple.
Le tourisme, il y a encore le soleil, ce qui est important, en fait. La désert en Libye, on peut profiter, comme on dit, l'énergie du soleil.
Oui,
ça, si on le profite bien, donc ça va faire une fortune pour la Libye, en fait.
D'accord. Alors, on va parler maintenant de la situation actuelle en Libye. Bon, on va pas tout pouvoir aborder tous les aspects, mais disons, après la chute du régime de Kadhafi, se met en place un nouveau système politique.
Le CNT.
Avec le Conseil National de Transition libyen. D'accord. Alors justement, le leader, Mustapha
Abdeljalil.
Voilà, vous le dites bien mieux que moi.
Mustapha Abdeljalil.
Il nous a un peu choqués, nous, ici, quand dans ses premières déclarations, il a dit en Libye, maintenant, on va appliquer la charia. Alors la charia, c'est la loi islamique. Et oui. Parce que ça a été dit beaucoup, ça. Hein, donc, alors, est-ce que c'est compatible ou incompatible avec la démocratie, la liberté?
Donc, quand on dit la charia et l'application de la charia dans un pays, il ne faut pas le prendre la charia normale. Mais nous, on prend toujours de sens de l'extrémiste violent. La charia, ici, normalement, on l'applique quotidiennement. C'est parce que ça fait partie de la religion et ça fait partie de la culture libyenne en général. Et on est né comme ça, où on doit garder notre religion, notre coutume, notre tradition, notre principe social en général. Ça ne nous gêne pas, même quand on va dire la charia, pour la religion en Libye, c'est la majoritairement musulmane, c'est à 100% musulman, donc il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a pas des partis socialistes, il n'y a rien, on n'est qu'un seul pays unique.
D'accord. Mais le système politique qui va se mettre en place, est-ce qu'il va permettre qu'il y ait différents partis qui s'expriment, qui aient leurs journaux, leur siège, des élections, une élection par exemple d'assemblée constituante? Est-ce que tout ça va se mettre en place?
Oui, les charias ne contrôlent pas tout ça. On peut créer tout ça et avec les charias, on peut vivre très bien. Et si vous comprenez bien les charias et tous les conditionner dans les chariats, on peut être ami avec tout le monde, on peut travailler avec tout le monde, mais comme il y a des lois en France, on dit c'est les lois de religion à partir de la charia.
Je peux ajouter des précisions en fait concernant l'application de charia? Donc en Libye actuellement, il y a pas une constitution. Et avant, à l'époque royale, le roi Idriss As-Nussi, donc il y avait la constitution. La constitution, à l'époque, elle était inspirée de la charia. Et ce qu'on va faire pour la nouvelle Libye en général, on va prendre la constitution et on va le modifier, en fait, pour qu'il soit compatible avec, avec, comme on dit, avec l'heure actuelle, avec la situation actuelle. D'accord. En général.
Alors, autre question qui préoccupe souvent quand on parle de la Libye, c'est la situation des femmes. Est-ce que la condition des femmes après la révolution, est-ce que cette condition, elle va s'améliorer ou se détériorer? Est-ce que c'est la femme à la maison? Les femmes ont lutté aussi dans la révolution.
Vraiment, les femmes, c'est pas exactement à la maison. Les femmes, elles travaillent partout en Libye,
maîtresse,
dans tous les domaines. Et les docteurs, et les professeurs, et les ingénieurs, les femmes partout. Mais comme les femmes ici en France, il y en a des règles dans la vie, par exemple. Et tu ne peux pas venir à l'université avec un vêtement bizarre pour la soirée ou quelque chose comme ça. C'est les règles. Il y en a des règles pour vivre normal. On suit les règles.
Eh bien, on continuera à parler de tout cela. Il faudra qu'on refasse une deuxième émission. On sera très heureux de vous recevoir. Okay. On va écouter un petit peu de musique et puis après on parle de votre association.
Ok, merci.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Nous sommes en compagnie de Oussama, Ismaël et Mohamed de l'association Asso Liba, association des Libyens d'Arras. On a beaucoup parlé et puis on s'est aperçu qu'il faudra faire certainement une deuxième émission. Alors, un petit mot quand même sur ce qu'on vient d'entendre, toujours de la musique de Libye. Qu'est-ce qu'il nous dit,
bon,
Oussama?
C'est une chanson libyenne, bon, c'est une chanson de la nostalgie de son pays en fait. C'est un chanteur libyen qui s'appelle Ahmed Fakroun. Donc il est, comme on dit, il n'est pas en Libye avant, mais là, si je ne me trompe pas, il est rentré en Libye. Ouais. Il est en France, si je suis bien sage en fait.
D'accord. Alors on parle maintenant de l'association que vous avez créée il y a peu de temps, 25 novembre, j'ai vu.
Oui, 25 novembre.
25
oui.
novembre 2011. Voilà. Alors, on a ici Oussama qui est trésorier, Ismaël qui est le président de l'association et Mohamed.
Le secrétaire.
Le secrétaire.
Ah, on a tout le bureau là. Ouais. Tout le bureau est là.
On a pris la décision de venir tous ensemble.
Et ouais, c'est, ça, voilà, c'est dangereux c'est... si on vous prend tous les trois, le bureau est décapité. Non. Alors, cette association, donc création récente, pourquoi vous avez créé cette association? Arras?
Pourquoi Arras?
Et puis, les buts de cette association? Bon.
Je vais vous donner une explication rapide pour l'association et les objectifs de cette association. Donc, il y a à peine 3 ans, il n'y avait pas des Libyens ici à Arras, Mais les premiers Libyens qui sont venus dans le nord, Bas-de-Calais, en général à Arras, donc à Lille, peut-être il y en a des Libyens, mais à Arras, il n'y a que 5 ou 6 Libyens, en fait.
Qui sont nous.
Oui, voilà. Il y en a 3 avec vous et le reste sont chez eux. Bon, on a créé cette association, c'est pour aider les étudiants libyens pour qu'ils viennent ici, dans le nord Bas-de-Calais, et pour qu'ils puissent suivre leurs études dans l'Université d'Artois.
Donc c'est une association. Parce que vous aimez bien cette région.
C'est une ville étudiante, c'est une ville calme, à proximité à tout. Il y a tout ce qu'il faut ici, 50 minutes à Paris, en TGV, et si je me trompe pas, 40 minutes à Bruxelles. Mmh, voilà, c'est si je me trompe pas, on trouve tout ce qu'il faut ici, en fait. Voilà, c'est une association socioculturelle. L'objectif principal, c'est d'aider les étudiants libyens qui viennent ici dans la région et leur aider à trouver un logement, à découvrir la ville en toute simplicité avec des Libyens, avec des amis Libyens. Peut-être on va créer des liens d'amitié, on va devenir des amis. Et au deuxième temps, de montrer la culture et la tradition Libyens aux étrangers, bien précisément les habitants du Nord, Nord-Bas-de-Calais et Arras. Donc si jamais il y a, une activité dans la région, on peut y participer pour qu'on puisse montrer la culture et la tradition libyen à partir d'une stand là où on explique tout ce qui a une relation avec la Libye, une relation de la Libye en fait.
D'accord, donc cette émission d'aujourd'hui, c'est votre première action direction,
oui.
En direction de la population.
C'est parce qu'on vient juste de créer l'association il n'y a même pas un mois ou deux mois en fait.
Oui.
Voilà.
Alors, vous allez réaliser ce double but, si j'ai bien compris, hein, donc accueil des étudiants libyens à Arras et dans la région, et puis information sur la Libye auprès de la population locale.
Voilà, c'est ça.
Ce double but, vous comptez le
latin. Ce sont les buts principaux en général. Il y a des autres objectifs de cette association, mais les buts principaux sont montrer la culture libyen.
Faire connaître.
Oui, dans le nord Bas-de-Calais, en fait, et accueillir. Et
on va essayer faire relation entre l'université dans la religion, dans le nord Bas-de-Calais, et notre université en Libye, par exemple, l'université à Zawiya, ou Sabrata, ou le Montagne. On va essayer de faire
un gymnase.
Si possible, parce qu'on a étudié, on a appris quelque chose dans les méthodes françaises, c'est très bien, donc on fait apporter tout ça en Libye.
On va demander à Mohamed, parce que Mohamed, vous ne le laissez pas beaucoup parler.
Mais il faut qu'il participe.
Oui, le secrétaire. Mohamed, un mot là sur quelques exemples, par exemple, pour essayer d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Qu'est-ce que vous comptez faire comme activité?
Oui, comme mes amis déjà dit, on essaye de présenter la Libye en sachant que la Libye a été à la marge pendant 42 ans et ça m'étonne quelquefois quand je rencontre un rajoua, il m'a dit et quand il me demande d'où je viens et je dis de la Libye, il disait c'est rare qu'on trouve des Libyens ici sur Arras et c'est bien donc de créer une association telle que la nôtre pour présenter et pour donner une idée positive sur la tradition, notre culture. Et ça, je crois, c'est une raison qu'on doit consacrer.
Pour laquelle on a créé cette association.
D'accord. Est-ce que vous avez des idées, justement, de comment vous allez faire connaître la Libye, par exemple, je ne sais pas, faire venir un groupe musical, un film, des choses comme ça.
Des expositions.
À partir des expositions, montrer des images, des photos, des brochettes qui expliquent, les traditions libyennes. Et après, nous, on est dans une stand, on va expliquer, on va parler, on va montrer, des choses traditionnelles.
Exposer, par exemple.
Les exposés, explications.
Ça dépend les moyens, les circonstances aussi.
Oui.
Est-ce que déjà, on peut dire que vous êtes bien inséré dans, dans l'université d'Artois, la faculté à Arras? Est-ce que vous avez beaucoup de relations avec les autres étudiants? Alors, les étudiants français, mais il y a aussi d'autres nationalités. Il y a des étudiants chinois, par exemple, en grand nombre à l'université d'Artois. Oui. Est-ce que vous avez des liens un peu...
Pas personnellement, j'ai un lien avec les étudiants français. Il y a notre nationalité des Arabes, des Européens. On a une bonne relation avec notre prof aussi dans le département où on est étudié. Donc à partir de tout ça, peut-être on va réussir à faire quelques activités à l'université d'Artois.
D'accord. Alors, on refera une émission ensemble dans peu de temps, et en tout cas, à coup sûr, quand vous aurez une première initiative. Est-ce qu'il y a un moyen de contacter votre association, un numéro de téléphone ou une adresse mail ou quelque chose comme ça?
Je vais vous donner une adresse mail.
Oussama.
Un adresse mail, c'est assoliba. @yahoo.fr
Assoliba.
Assoliba.
En un mot.
Voilà. Donc, Assoliba. Assoliba.
Assoliba. @yahoo.fr
D'accord. Eh bien, on va se quitter, mais avant, on va parler, ça va introduire ce qu'on va écouter maintenant. On va parler d'un café citoyen qui a lieu le vendredi 27 janvier à 19h30 au Café Lef d'Arras, Place des Héros, sur le thème les printemps arabes, donc au pluriel, un an après. Et vous allez y participer.
Ouais.
Alors, donc, vous allez parler de la révolution en Libye et
situation libyenne en général.
D'accord. Alors, il y a quatre participations différentes dans cette soirée. Jean-François Bayard, qui est politologue, directeur de recherche au CNRS. Hélène Flautre, qu'on va écouter, qui est députée européenne. Yahya Hassam, qui est militant pour la démocratie et la justice sociale en Algérie. Et puis Oussama et Ismaël, qui sont là. Qui sont tous les deux étudiants libyens. Je pense que Mohamed sera là, sera là aussi.
Va y participer aussi.
Donc tout ça est organisé par Europe Écologie. Alors on va écouter Hélène Flautre. Oui, Ismaël.
D'accord. Avant tout ça, tout d'abord, je vous remercie, Jean. Et je remercie beaucoup, beaucoup mon ami Claude.
Merci.
Alors,
je profite aussi, donc merci beaucoup pour cette invitation.
D'accord. Ouais. Eh ben, on se retrouve bientôt de toute manière. Hein. On écoute Hélène Flautre, qui fait un peu le point sur la situation en Tunisie un an après la chute de Ben Ali.
Hélène Flautre, nous sommes à un an après la chute du régime Ben Ali en Tunisie. On va faire le point de la situation, un point d'étape, puisqu'on s'est déjà rencontré sur ces questions. Alors d'abord, la situation dans le processus de mise en place du nouveau système politique.
Donc je dirais pas justement la chute du régime de Ben Ali, quoi, parce que c'est justement ça la question, c'est vraiment la chute, le départ, quoi, le départ, la queue entre les pattes d'ailleurs de Ben Ali. Et un régime justement qui reste un peu en place toujours à l'intérieur, dans la justice, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Il y a eu des mobilisations renouvelées par vagues jusqu'à l'obtention d'un processus qui garantissait des élections transparentes, ouvertes, pour une constituante. Et donc ces élections ont eu lieu, c'était le 23 octobre. De là, on est sorti un échiquier politique, en quelque sorte, qui a pas mal déboussolé, on va dire, les militants démocrates opposants à Ben Ali, puisque Ennahda, sans avoir la majorité, a quand même recueilli très largement la première place sur le podium dans cette assemblée constituante. Donc cette assemblée constituante, elle est lancée dans son travail, comme toute assemblée qui démarre, c'est-à-dire un règlement intérieur. Mais avant de finaliser ce travail, elle a mis en place et validé donc un gouvernement qui est issu d'un accord entre trois forces, donc Ennahda, CPR de Moncef Marzouki, qui est aujourd'hui le président de la Tunisie, et puis État Catol, qui est la formation du président, lui, de l'Assemblée constituante, qui est Mustapha Ben Jaffar. Et on a un premier ministre d'Ennahda, Djebeli, et un parti aussi Ennahda qui a tous les postes, j'allais dire, de régaliens du ministère, donc l'intérieur, la justice. Il n'a pas l'éducation nationale, ni les affaires sociales, mais voilà, il a quand même une position très dominante au sein du gouvernement. Il a fait d'ailleurs, le Premier ministre, un exposé devant l'Assemblée constituante qui n'a pas été très convaincant sur la volonté de réforme, l'agenda des réformes, etc. Alors même que ces questions continuent d'être posées partout dans le pays. Donc les parlementaires découvrent un peu aussi les capacités qu'ils peuvent trouver en leur sein de construire des majorités, j'allais dire, un peu ad hoc en fonction des sujets. C'est-à-dire que la coalition qui gouverne et qui a organisé donc un peu ce triumvirat quoi, entre le Premier ministre, le président de l'Assemblée et le président de la République, n'a pas vocation forcément à s'imposer systématiquement. Et d'ailleurs, au sein de l'Assemblée constituante, entre les parlementaires, et d'ailleurs, il y a déjà eu beaucoup de votes qui se sont déroulés sans que cette majorité à trois soit systématiquement reproduite.
Alors, donc on assiste à la mise en place d'un système politique embryonnaire ou qui établit ses propres règles, et on a le sentiment qu'il y a un peu une course de vitesse entre la mise en place de ce système politique qui devrait prendre des décisions évidemment sur l'avenir du pays, les choix économiques, les choix sociaux, etc., une course de vitesse entre ce système politique et puis la situation sociale qu'on pourrait dire d'affirmation d'urgence, de besoin d'urgence pour la population.
Ça, oui, c'est vrai que la situation sociale n'a pas cessé d'être exprimée jour après jour depuis le 14 janvier, puisqu'il y a des manifestations toujours, des grèves, des piquets de grève, des sit-in. Et donc, il est certain que c'est, c'est une question extrêmement préoccupante. En plus, il y a le contexte qu'on connaît bien quand même en Europe. Il y a le tourisme qui s'est arrêté. Il y a l'espoir de pouvoir trouver beaucoup d'emplois et de capacités de ressources dans la Libye qui se reconstruit. Mais enfin, tout ça, c'est à terme, quoi. C'est pas sur les rails. Donc il est certain que la situation n'est pas facile. Mais je dirais que si tout le monde était... Si personne, aucun des acteurs, que ce soit au ministère, dans les syndicats et parmi les manifestants et les dirigeants des entreprises, si personne n'avait de doute sur la position des autres, enfin si tout le monde tenait son rôle, on pourrait certainement imaginer certes que la situation est difficile, mais qu'elle va trouver des débouchés parce que le ministre va prendre une démarche de dialogue social approfondie, des solutions vont être trouvées, etc. Le problème, c'est qu'il y a toujours le soupçon que des sbires de l'ancien régime se transforment un peu en professionnels de la déstabilisation. Alors, on peut aussi imaginer que le gouvernement pourrait laisser entendre que finalement, ce n'est pas des vrais manifestants, ce n'est pas une vraie urgence sociale qui s'exprime, c'est juste la volonté de les déstabiliser politiquement. Donc ça rend un peu le jeu compliqué, d'autant que il y a aussi un autre front qui est, de rapport de force, qui est en train de s'installer sous les provocations qui deviennent quand même assez régulières de groupes salafistes dans la société. Donc tout ça complique un peu la donne.
Voilà, c'était donc Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie Les Verts, donc au micro de Radio PFM, sur la situation en Tunisie un an après la chute de Ben Ali. Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao.